Bonjour à toutes et tous, ou bonsoir, hein, quelle que soit l'heure à laquelle vous m'écoutez. Deuxième best-of de l'été, avant la rentrée de la revue de presse JV pour sa saison 3 le 2 septembre prochain. Nouvelle formule, formule augmentée, plein de nouveautés, plus d'interactions avec vous, chers auditeurs, avec les tipeurs, etc. Beaucoup de belles choses, donc le 2 septembre, hein, notez ça dans vos tablettes. Avant toute chose, donc, on termine les best-of de l'été avec un best-of spécial Girl Power. Alors, c'est issu des revues de presse rétro, hein, je l'ai déjà rappelé maintes et maintes fois, les revues de presse rétro s'arrêtent, et donc, avec l'aimable autorisation des tipeurs qui vont avoir des contreparties encore plus extraordinaires pour cette saison 3, je dévoile certaines revues de presse rétro sur tous les flux habituels de l'émission. Donc là, c'est une compilation. Vous le verrez, ce sont une succession de textes, hein, donc issus de la presse d'antan concernant la place de la femme dans le milieu du jeu vidéo, que ce soit le milieu professionnel, que ce soit les joueuses, que ce soit les personnages féminins dans les jeux vidéo. Plein de textes donc qui en disent beaucoup sur l'époque et qui nous renvoient parfois malheureusement à certains archaïsmes d'aujourd'hui. Bref, je n'en dis point plus, voici donc cette compilation de textes et on se retrouve donc à la fin de l'émission. Bah quand même, la politesse pour se dire au revoir et à très bientôt. Allez, c'est parti. La première héroïne de jeux vidéo se retrouve ainsi déguisée sur arcade en grosse boule jaune dans Miss Pac-Man, hein, en 1982. Un an plus tard, la représentation du sexe dit faible gagne en réalisme mais pas en éthique. Sur l'Atari 2600, Kirsten's Revenge invite ainsi le joueur à éviter des flèches pour arriver à s'accoupler avec une indienne. Édité et développé par Mystic, ce jeu érotique destiné aux plus de 18 ans provoque un des premiers scandales de l'histoire du jeu vidéo, avec à la clé des manifestations d'organisations luttant contre le sexisme et le racisme aux États-Unis. Même si son éditeur s'en défend, le titre du jeu et son contexte font clairement référence au viol d'une indienne, et aussi à une revanche prise sur l'une des défaites les plus cuisantes de l'armée américaine contre les Indiens d'Amérique en 1876. GameSpy, PC World et GameTrailer ont d'ailleurs placé cette production en bonne position dans leur top 10 des pires jeux vidéo de l'histoire. Aussi marquant soit-il, Custer's Revenge reste heureusement une exception. À l'aube des années 80, les jeux vidéo ont plutôt tendance à traiter la femme avec une gentille condescendance. Elle y joue le rôle d'un objet récompense à délivrer, car kidnappée par un bad guy. Des sagas cultes, hein, comme Donkey Kong, Double Dragon, Adventure Island, mais surtout Zelda et Super Mario, pompent ainsi allègrement le thème de la demoiselle en détresse. Un archétype venu en ligne droite des récits de l'Antiquité qui s'est articulé à travers les siècles via les contes populaires, la peinture, la littérature ou le cinéma. Encore fortement ancré dans l'industrie du jeu malgré quelques contre-pieds admirables, ce réflexe enfermant les femmes dans un rôle destiné à flatter l'ego masculin ne pose pas de problème sur le fond, mais bien plus dans sa fréquence élevée et son emploi encore trop systématique de nos jours. Un peu comme si le cinéma n'offrait aux actrices que des rôles de potiches à sauver comme Jane Lois ou Anne Darrow dans Tarzan, Superman et King Kong. Malgré un rôle archétypal et des couleurs de Barbie rose bonbon et blond platine dans le premier épisode, Peach devient active peu de temps après ses débuts dès 1987 dans Super Mario Bros. 2. Ce vrai faux deuxième épisode occidental de la saga du plombier moustachu permet ainsi de la diriger au même titre que Mario, Luigi et Toad. Une avancée discrète et révolutionnaire pour l'époque qui ne se reproduira que 18 ans plus tard dans Super Princess Peach sur DS. Ce jeu de plateforme inverse la vapeur et voit Mario et Luigi kidnappés par Bowser. Comme le cas Mario en témoigne, Nintendo brouille les pistes et adopte une attitude ambiguë quant à la place de la femme dans ses plus grandes sagas pixelisées. Tranquillement progressiste, il joue des contrastes au fil de ses productions les plus ambitieuses. La saga des Zelda l'illustre à merveille. Si la vingtaine d'épisodes de la série affiche le plus souvent le nom d'une princesse, bizarrement, c'est bel et bien Link qui tient le premier rôle et incarne le seul personnage jouable, exception à cette règle, Zelda The Wand of Gamelon sur le CDI de Philips, qui permet d'incarner Zelda dans un gameplay à l'intérêt proche de zéro, tandis que Midna, l'une des trois princesses à sauver de Twilight Princess sur GameCube, prend également une part active à l'aventure pour un bien meilleur résultat. Troisième énorme saga Made in Kyoto, Metroid continue à fasciner avec force depuis 1986. À l'époque de la NES, ce jeu de plateforme shoot nerveux fait un carton. On y dirige un cyborg casqué, vêtu d'une combinaison spatiale et qui s'avère à la fin du jeu être une femme. Plus d'un joueur est resté bouche bée. Récompense d'un effeuillage final ou leçon de morale délibérée, difficile de deviner les intentions exactes de Big N qui reste très laconique sur le background de cette chasseuse de primes, également justicière intersidérale. Sautant et dézinguant du boss comme un mec, Samus Aran, l'héroïne du jeu, prouve que le « we can do it » féministe est traduisible en pixels. Le tout grâce à du « cross-dressing », terme utilisé pour décrire le travestissement d'une femme en homme ou inversement désireuse d'évoluer dans un monde qui lui est inaccessible à cause de son sexe, une version postmoderne de Mulan, Jeanne d'Arc ou l'écrivain George Sand qui prouve que l'univers du jeu vidéo 80s, devant ou derrière l'écran, est encore très réactionnaire en termes d'accessibilité aux filles et aux femmes, mais plus pour très longtemps. Ce texte est tiré du IG Magazine numéro 3 datant de juillet-août 2009, donc ce qui nous fait presque 10 ans, un papier intitulé « Sois belle et tais-toi », donc qui parle des héroïnes dans les jeux vidéo. Alors je ne vous ai pas lu tout le dossier, mais une partie, la partie qui me paraissait la plus pertinente avec ce sujet qui est vraiment sur le devant de la scène, et c'est heureux hein, en ce moment, sur la place des femmes dans le jeu vidéo, dans l'industrie du jeu vidéo, et d'une manière plus globale, le harcèlement et le traitement réservé aux femmes dans nos sociétés. Donc je trouvais que cet article pouvait trouver une résonance avec l'actualité d'aujourd'hui, une résonance intéressante. Dans cet IG Mag, hein, où l'on explore plusieurs facettes hein, de l'image de la femme dans le jeu vidéo, on peut retrouver une interview de Vanessa Lalo, qui est psychologue clinicienne de formation analytique et qui travaille énormément sur les jeux vidéo, qui est même un peu plus connue maintenant. Enfin, je suppose que vous avez au moins une fois entendu parler d'elle. Elle est très active sur les réseaux sociaux. Je vous invite d'ailleurs à la suivre sur Twitter hein, ou sur Facebook. Et donc, dans cet IG Mag, on lui demande s'il existe une explication psychologique au fait que, dans les années 80, les filles s'adonnaient moins volontiers que les garçons aux jeux vidéo. Ou en tout cas, elle ne pratiquait pas les mêmes jeux. Alors, on peut revenir sur cette affirmation, la trouver un peu erronée ou pas, mais la réponse de Vanessa Lalo est intéressante. Elle nous dit « Je ne pense pas que cela relève de la psychologie. Freud a démontré très tôt qu'il existe une bisexualité psychique chez l'être humain, que chacun d'entre nous dispose à la fois de traits masculins et féminins. Ceci dit, les individus font tous expérience de la différenciation des sexes à partir de 4 ans. Concrètement, le garçon s'aperçoit que la fille n'a pas de pénis. Il se sent alors menacé car il a peur de perdre son atout. C'est ce qu'on appelle l'angoisse de castration. Cette angoisse poussera le garçon à se battre tout au long de sa vie pour qu'on ne lui ôte pas ce phallus. C'est ainsi qu'une logique de compétition va se constituer. Il va chercher à déposséder le phallus de celui qui est considéré comme le plus puissant, et la femme, quant à elle, cherche plutôt à obtenir ce phallus dont elle est dépourvue dans une quête éternelle pour combler ce manque ou tenter de le réparer. D'un point de vue plus anthropomorphique que psychanalytique, on peut rapprocher ses comportements de celui de l'homme primitif qui devait chasser et protéger son territoire tandis que la femme s'occupait de la gestion du foyer et des enfants. Bien entendu, il s'agit de généralité puisque chaque individu est singulier. Alors personnellement, je n'adhère pas totalement à toutes ces analyses, mais bon, je ne suis pas un spécialiste. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve ça quand même assez étonnant. On lui demande également si ces données ne peuvent-elles pas expliquer donc le fait que la majorité des filles n'aiment pas Counter-Strike. C'est une drôle de question également. Vanessa Lalo répond qu'une étude américaine avait été dirigée par le psychiatre Alan Race, qui a fait passer des IRM à des sujets des deux sexes en présence de jeux vidéo. Il a été constaté que la région mésocortico-limbique du cerveau, ouf, j'ai réussi à le dire sans trop me planter, donc c'est une zone impliquée dans le sentiment de satisfaction, était davantage stimulée chez les hommes lorsqu'il s'agissait de vaincre leurs adversaires et d'agrandir leur territoire. Cela tendrait à démontrer l'existence de prédispositions pour les jeux de compétition ou de conquête chez les sujets masculins. Mais il existe aussi une analyse plus socioculturelle. De la même manière que les garçons ont été encouragés à jouer au foot ou aux soldats et les filles à la poupée, on constate que les jeux produits aujourd'hui collent encore aux représentations sociales des rôles de chacun des deux sexes. Une fille qui s'intéressait aux jeux de combat risque d'être perçue comme dépossédée de sa féminité. D'une manière générale, les hommes et les femmes sont régis par les mêmes désirs et les mêmes pulsions, mais l'expression de ces pulsions est souvent encouragée chez l'homme, alors qu'elle est parfois réprimée chez la femme. J'avais complètement oublié ce texte-là, puis je précise que, vu que j'ai fait partie vraiment des rédacteurs principaux d'IG Magazine, tout ce que je vous lis là, que ce soit les entrevues ou les articles, hein, n'ont pas été signés de ma plume, bien sûr, le but n'étant pas de me mettre en avant d'une manière totalement égocentrique. Le dossier que je vous ai lu tout à l'heure, le dossier, en tout cas une partie du dossier intitulé « Sois belle et tais-toi » a été signé Michihiro Tamai. L'interview de Vanessa Lalo, que je ne vous ai pas retranscrit en intégralité, bien évidemment, a été recueillie, en tout cas les propos de Vanessa Lalo ont été recueillis par le caporal Casse Pompon. Dans ce numéro de 2009, on trouve une interview de Kayane, une interview réalisée à nouveau par le caporal Casse Pompon. Et l'interview est titrée « Kayane, deux points, cette fille est dangereuse ». Alors, je ne vais pas vous lire toute l'interview. Il y a une question qui est assez parlante. On lui demande « Est-ce que les garçons sont-ils de mauvais perdants ?» Hein, et surtout lorsqu'ils sont battus par une fille. C'est vrai que rien que la question déjà est assez représentative d'un état d'esprit qu'on peut certainement retrouver aujourd'hui, bien sûr, mais qui était peut-être encore plus présent à l'époque. Et donc Kayane répond, cela arrive souvent, mais surtout quand ils ne me connaissaient pas de réputation. Lorsqu'il s'agit de joueurs qui connaissent mon pseudo, ils trouvent que c'est normal. Mais c'était bien pire quand j'avais 9 ans. Je participais à des tournois qui organisaient des défis Kayane. On pouvait gagner un lot si on me battait. Heureusement, cela arrivait rarement. J'avais un peu l'impression d'être une attraction. Et en même temps, cela me permettait de me venger. Je voulais prendre ma revanche contre ces gens qui chuchotaient derrière moi. C'est une gamine, je vais la battre facilement. Oui, contre tous ces mecs qui me disaient de retourner jouer à la poupée. Ça me donnait la rage et c'était un vrai plaisir de les battre au début. Tout le monde me sous-estimait. Aujourd'hui, j'ai acquis une réputation et ce n'est plus le cas. Et justement, quand on parlait de compétition, d'esprit de compétition, là, Kayane l'avait déjà, je dirais, à fond les manettes, hein, sans faire de mauvais jeu de mots. Elle dit notamment « Quand je perds, je pense que c'est uniquement à cause de mes erreurs et que je dois les analyser. Je suis très perfectionniste et j'aime la compétition. » Donc, à l'époque, Kayane s'adonnait surtout à Soul Calibur 4, hein. Elle était classée 4e française, mais elle précisait qu'elle s'entraînait moins qu'à l'accoutumée à cause du bac. Donc elle dit « Je ne joue plus que 2 fois par semaine, environ 30 minutes par jour, le temps d'un défi. Ma mère m'a bien fait comprendre que la priorité, ce sont les études. Après le bac, je compte suivre un DUT en technique de commercialisation. Le jeu a toujours été une passion pour moi, je ne voudrais pas que ça devienne un job auquel je devrais m'adonner par obligation. » Alors ce qui est marrant, c'est qu'effectivement, là, je pense que peut-être que sa vision était un petit peu biaisé par, et ça peut se comprendre, les inquiétudes de sa mère, qui sont tout à fait compréhensibles, hein, bien évidemment. J'imagine que quand elle a vu qu'elle pouvait vivre de sa passion, en tout cas, en partie, parce que quand elle a vu, en tout cas, malgré tout, qu'elle pouvait vivre dans cet univers du jeu vidéo, je pense qu'elle n'a pas hésité, une fois que ses parents, très certainement, étaient rassurés pour son avenir. Cette année, le salon de l'E3 a encore une fois rayonné de mille feux, avec une profusion de jeux et de nouveaux hardware surpuissants. Pourtant, une sensation de manque persistait. Le quota de babes sur les stands a baissé et celui des filles à l'intérieur des jeux vidéo s'est révélé proche du néant. Parmi les centaines de jeux présentés, seulement 5 proposaient une héroïne, dont 2 paraissaient être la personnalité la plus connue du casting de Heavy Rain, mais sans pour autant être considérée comme le protagoniste principal. De son côté, la bande-annonce de Final Fantasy XIII semblait dévoiler un leader féminin, dont le rôle allait être finalement très vite minimisé par la presse nippone. On a même pu lire que Square Enix aimerait inclure dans le jeu une femme forte et indépendante, mais pas nécessairement en tant que personnage principal. Résultat, il en restait 3. Lara Croft dans les versions portables de Tomb Raider Legend, Samus Aran dans Metroid Prime 3 et une nouvelle venue dans Heavenly Sword. Alors que le débat fait encore rage sur les moyens d'attirer les femmes vers les jeux vidéo, on devrait peut-être se demander plutôt comment attirer les femmes dans les jeux vidéo. C'est un problème en 3 parties au final. On peut d'abord se demander si en termes de business, les joueurs sont prêts ou non à acheter des jeux où il faut incarner une femme. La question est de savoir également si, au milieu de la chaîne commerciale, les éditeurs sont capables d'oser financer de tels projets. Mais la véritable interrogation concerne les développeurs eux-mêmes. Pourquoi ne sont-ils pas plus nombreux à créer des jeux avec des héroïnes ? Ne le veulent-ils pas ? Savent-ils vraiment le faire ? En quoi cela change-t-il au niveau design de modifier le chromosome du héros ? C'est une observation intéressante, admet Ragnar Törnquist, réalisateur de The Longest Journey et Dreamfall. Il ajoute « J'aurais dû m'en rendre compte, d'autant que je m'étais fait un devoir d'écrire des rôles pour les femmes dans nos jeux. Mais j'avoue qu'à la longue, un peu honteux, j'ai fini par croire que les jeux auront toujours des protagonistes masculins. » Cela montre bien que le problème possède des racines profondes, surtout si le plus célèbre des designers vidéoludiques, défenseur de la cause féminine, est lui-même un joueur naturellement asservi aux hommes. Il le reconnaît d'ailleurs. Je cite « La question épineuse est de savoir si, en tant qu'hardcore gamer, je serais prêt à accepter que le héros de Splinter Cell devienne, après une bonne séance de maquillage, Samantha Fisher ou que le prochain GTA présente une ex-tollarde à la recherche du boyfriend qui l'a trahi. Si nous-mêmes nous sommes pas prêts à cela, voulez-vous que les éditeurs le soient ? L'alternative serait de créer de nouveaux titres ajustés sur des personnages féminins, mais vu la manière dont marche actuellement l'industrie, les nouvelles idées ne sont pas forcément les bienvenues, ni les héroïnes d'ailleurs. » C'est assez glaçant d'entendre ce genre de propos, je vous l'accorde. Bref, en de rares occasions, l'industrie est prête à accepter de nouvelles idées ou héroïnes, et le résultat peut s'avérer si payant qu'il est difficile de comprendre pourquoi l'hésitation persiste. L'argument comme quoi le cas Tomb Raider était unique peut avoir du poids, mais il peut être aussi balayé vu l'accueil chaleureux de Heavenly Sword et de sa star, Nariko. De quelle manière le studio Ninja Theory s'est-il battu dans sa quête d'un éditeur pour conserver telle quelle son héroïne? Nina Christensen, un chef de développement et cofondatrice du studio, nous répond ceci. Nous avions fait des essais avec un personnage masculin, mais le concept ne tenait plus debout. Les autres éditeurs désiraient plus de chair apparente, mais nous voulions de notre côté créer un personnage complexe et attachant. Mais c'est impossible si elle ressemble à une prostituée de bas étage. Nous voulions que Nariko soit à la fois belle, élégante, sexy, vulnérable et dur à cuire. Elle n'a pas eu une vie facile, et cela convient même bien à son personnage. Pas question qu'elle ressemble à une vulgaire starlette. Elle devait absolument avoir de l'aplomb et de la profondeur. Alors, évidemment, cette vision étroite des éditeurs semble endémique. David Cage, l'homme derrière l'extraordinairement ordinaire personnage de Mary Smith, utilisé dans la bande-annonce de Heavy Rain, est pessimiste concernant cette situation. Il nous dit « Franchement, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans la manière dont notre industrie traite les femmes. Dans la plupart des jeux, elles ont un rôle parce qu'elles sont sexy ou qu'on doit les sauver. Et parfois, elles n'ont même pas de rôle du tout. C'est une version simpliste créée par des teenagers débiles pour d'autres teenagers débiles. J'ai souvent entendu de la part des départements marketing, en particulier aux États-Unis, qu'un personnage féminin devait être sexy pour avoir une chance de marcher sur leur territoire. Chose marrante quand on connaît leur politique absurde de censure. » Alors, l'une des résultantes de ce problème est de mettre de côté le statut féminin des combattantes et de les assimiler à n'importe quel autre guerrier masculin, une approche unisexe envisagée par la plupart des RPG. Plutôt que d'apprécier les différences fondamentales, les exemples de soft où la féminité des leaders apporte réellement un plus à l'expérience du jeu sont extrêmement rares. Ainsi, le trio de Final Fantasy X-2 provoque une ambiance parfaite de soirée entre filles où se côtoient excitation frénétique et douce nostalgie. Sans oublier le système de dress-fair très adapté à l'insouciance féminine qui permet d'intervertir les rôles simplement en revêtant de nouvelles et fabuleuses tenues. Le sexe ne devrait jamais être simplement un choix esthétique, bien que la plupart du temps, ce soit malheureusement le cas, nous confie Ragnar Törnquist. Il ajoute « Les hommes et les femmes sont différents et il n'y a rien de mal ou de sexiste à vouloir intégrer cela dans le gameplay ou dans l'histoire. Mais la majorité des développeurs a peur d'offenser les gens. Et voilà donc qu'hommes et femmes deviennent le plus souvent interchangeables dans les jeux comme n'importe quel costume ou couleur de cheveux. Il faut que cela change. » Effectivement, voici justement le terrain miné qui rend la création des jeux avec des héroïnes si difficile. Pour que ça marche, il faut que les filles soient suffisamment sexy pour plaire aux éditeurs, mais en même temps asexuées pour éviter la censure. Donc il faut qu'elles soient aussi féminines pour justifier leur statut, mais en même temps un bras macho pour accomplir des missions violentes, élément de base pour la plupart des jeux avec scénario. Hélas. Pour constater l'ampleur du problème, cela vaut la peine d'imaginer ce que pourrait donner God of War avec une fille si le héros avait été une furie pleine de taches de rousseur et de coups de soleil, essayant de se venger de la mort de son enfant et de la folie de son guerrier de mari. Aurait-elle été aussi impitoyable durant le combat? Aussi résolue dans sa quête? Aussi agressive sexuellement pour exiger un triolisme avec deux esclaves masculins? La scène aurait-elle été coupée? Il peut être facile de tourner en dérision les stéréotypes des personnages masculins et féminin, mais il est presque impossible d'imaginer de toute pièce une Madame Kratos. Si les développeurs doivent limiter les actions de leur personnage féminin par souci de son background culturel, en revanche, les restrictions concernant sa tenue peuvent s'avérer encore plus traîtres. Les fans de jeux, peut-être un peu gênés par la façon dont leur loisir est est encore perçu par la majorité, surveille toute forme d'exploitation. Ainsi, même la jaquette d'Heavenly Sword, pourtant réservée à l'E3, peut enclencher des lettres de protestation anti-pornographiques. Comment cela se fait-il qu'un développeur de jeu puisse être accusé ainsi? Les héroïnes des deux jeux de Ragnar Thornquist ont bien quelques scènes en sous-vêtements, mais cela reste plus que raisonnable, d'autant plus que Zoé dans Dreamfall commence le jeu en s'éveillant tôt le matin, puis en traînant au lit. Mais cela ne veut pas dire toutefois un risque de perception d'exhibitionnisme. L'intéressé rebondit sur la question en nous disant « Je pense que dès que Zoé saute du lit et se met à marcher en parlant de sa vie, ce n'est plus du voyeurisme mais la réalité simple et évidente. Il y a quelque chose de si parfaitement normal et en même temps de complètement extraterrestre à présenter de cette manière le personnage principal. Alors je n'ai pas pu y résister. Je n'ai jamais dû m'auto-censurer quant à la présentation ou à l'utilisation des personnages féminins. Après tout, il faudrait pousser le bouchon très loin pour présenter un personnage féminin d'une manière pire encore que ce qui se fait habituellement dans les jeux. » Vous serez d'accord ou pas avec cette déclaration, je vous laisse juge. Mais le problème inverse frappe un jeu comme Red Ninja, vilipendé par une bonne partie de la presse qui l'a traité de sexiste. Son héroïne, Kurenai, se rapproche pourtant d'un portrait d'une Madame Kratos. Car à la suite du massacre de sa famille, elle se retrouve consumée par la haine et promet de la venger en utilisant tous les moyens à sa disposition. Ainsi, elle crée par exemple une attaque infâme durant laquelle elle attire les gardes dans un coin en leur montrant ses cuisses, puis leur coupe silencieusement la gorge. Ce qu'il y a d'intéressant à propos de la manière dont ce jeu a été perçu, c'est que la ligne de conduite et les actions de Kurenai sont deux fois plus justifiées que n'importe quel combat de poupée fardée issue de Dead or Alive. Mais elles ont hélas soulevé deux fois plus de contestations. Et il y a un hic. En 1997, la géométrie Clara fait la couverture du magazine The Face, mais il aura fallu attendre 7 années supplémentaires pour que des personnages féminins de jeux vidéo pénètrent les pages de Playboy. Dans l'édition en question Girls of Gaming, seulement 2 femmes de pixels parmi les 16 présentées tenaient les rôles principaux de leurs jeux respectifs. Bien entendu, la représentation des femmes n'est pas un problème uniquement inhérent aux jeux vidéo. Ayant écrit autant pour le grand écran que pour celui de l'ordinateur, Ragnar Thornquist compare très justement les jeux aux blockbusters hollywoodiens. Ils ont tous deux des budgets qui gonflent régulièrement afin de séduire le plus large public possible. Il nous dit, je cite, « Il y a toujours une fille quelque part, mais peu de personnages féminins ont un vrai rôle principal. Elles sont aujourd'hui plus fortes et plus indépendantes, mais sont devenues finalement la proie des stéréotypes. La télévision s'en sort mieux. » Buffy a été une grande source d'inspiration pour le personnage d'April. Cela dit, même dans des séries comme Lost, vous avez toujours quelques femmes fortes, mais qui se contentent d'observer et de suivre le mouvement. Fin de citation. En admettant que les développeurs puissent jongler avec tous les préjugés et toutes les attentes, le marché serait-il finalement quand même intéressé? À cela, il faut citer le magicien de la BD anglaise, Alan Moore, qui répondait à ses lecteurs ayant accueilli fraîchement sa fantastique créature de papier, Halo Jones. Il avait dit, je cite, « Quel est le problème? Vous n'aimez pas les filles ?» Voilà, cette réaction, je pense, résume tout ça. pour Nina Christensen, même remarque, elle nous dit « Pourquoi un marché dominé par les hommes préférerait jouer avec un gros type répugnant plutôt qu'avec une fille superbe et svelte comme Noriko ?» Et Ragnar Thornquist va plus loin en nous disant « Je pense que le problème vient des développeurs et même encore plus des éditeurs. Il y a plein de développeurs qui ne savent pas créer de personnages féminins et surtout les éditeurs ne font rien pour les y encourager. Je ne pense pas que les mecs aient forcément un problème pour incarner une femme. Et je pense même qu'il y a beaucoup qui aiment ça secrètement, ou en l'assumant totalement, comme c'est mon cas. L'excuse que j'entends le plus souvent est « je vais être obligé de mater son cul pendant les 20 prochaines heures ». Des conneries tout ça! On est complètement fasciné par les femmes, et tout ce qui nous permet de mieux les comprendre est le bienvenu. David Cage ajoute « si une partie du plaisir éprouvé lors d'un jeu est lié au fait de devenir quelqu'un d'autre, alors se transformer en fille est une expérience passionnante ». Un changement de perspective questionne notre propre identité et notre relation aux autres. Se mettre à la place d'autrui est donc souvent utile. Incarner des personnages, par exemple, victimes de racisme ou de sexisme, pourrait nous permettre de mieux comprendre leurs sentiments. Une fois encore, je vous laisse juge de toutes ces déclarations. Bien sûr, donc, la récente pénurie de jeux avec des personnages féminins crée ses propres impératifs de marché. Pour Ninja Theory, les avantages d'élire Noriko, reine de l'E3, sont clairs. Nina Christensen nous demande, avez-vous vu à l'E3 des héros qui sortaient vraiment du lot? En revanche, vous regardez le visage de Noriko et là tout est dit. Les gens attendaient inconsciemment une nouvelle héroïne. Fin de citation. Bon, en tout cas, ce n'est pas grâce au raz-de-marée de soutien à l'émancipation féminine dans les jeux. Dommage que les femmes pâtissent de la rentabilité commerciale à court terme, car elles sont aujourd'hui la plus importante ressource inexploitée en matière de design. Outre attirer sûrement plus de joueuses, créer des titres avec des héroïnes permettrait de développer de nouvelles mécaniques de jeu et de façonner des histoires innovantes. À l'heure où la technologie vidéoludique prime abusivement, on oublierait presque qu'il manque souvent au jeu un supplément d'âme féminine, bien sûr. Ce texte est tiré d'un numéro de Edge datant de 2006, un numéro post-E3. Je ne vais pas le commenter car il est assez parlant, je crois. Vous connaissez mes positions sur toutes ces questions, j'en parle régulièrement dans l'édition classique de la revue de presse JV. Lire de telles choses alors que nous sommes en 2006, ce n'est pas pourtant il y a si longtemps que cela. Et de voir cet E3 qui vient de se conclure en 2018, ces héroïnes, ces femmes fortes, ces séquences modernes, justes, eh ben cela fait grandement plaisir, surtout lorsqu'on lit ce genre de papier qui, je le rappelle, date de 2006. Alors effectivement, je vous avais déjà fait dans la revue de presse rétro des reports d'articles sur la condition des femmes, que ce soit dans les jeux ou dans l'industrie du jeu vidéo. Mais je trouvais que cet angle-là était assez intéressant, puisque des propos, quand même, ils sont un petit peu choquants. L'état des lieux est assez désastreux. Et je trouve qu'à la lumière de ce papier, bah, notre E3 2018 prend d'autant plus de valeur. Qu'est-il arrivé à la micro-informatique familiale pour qu'elle se mue irrésistiblement en micro-informatique masculine? Dans ce petit monde, comme le remarque Plantu en politique, ça manque de femmes. C'est un problème dépassé. Il y a 5 ans, on pouvait s'en inquiéter, mais maintenant, tout a changé, affirment certains. Que nenni ! Les études ponctuelles les plus récentes concordent pour démontrer l'absence de femmes dans le domaine. Il suffit de jeter un coup d'œil aux joueurs des salles d'arcade, aux clients des magasins de micro-informatique et aux visiteurs des expositions pour réaliser l'ampleur de la désertion. Bien sûr, en micro-informatique, comme partout ailleurs, il existe des passionnés des deux sexes, mais force est de constater qu'il y en a beaucoup plus du côté masculin que féminin, surtout si l'on s'attache à l'utilisation personnelle de l'informatique et aux jeux sur ordinateur. Car des femmes programmeurs, des chercheurs féminins, des étudiantes en informatique, il y en a, même si elles sont encore minoritaires par rapport aux hommes. La profession se féminise, mais peu de femmes jouent ou programment dans un but personnel. Très peu de filles s'acharnent des nuits entières, les yeux pochés par le manque de sommeil, pour pulvériser les scores de Gold Runner ou percer le secret d'Ultima 4. Or, de nombreux psychologues, particulièrement aux États-Unis, ont étudié l'apport de la pratique des jeux informatiques qui permet d'aborder cette discipline sous un jour gratifiant. Ainsi, M. Loftus, professeur de psychologie à l'Université de Washington, déclare-t-il « Si, comme je le crois, les jeux aiguisent l'envie d'apprendre plus au sujet des ordinateurs et que cet avantage est en train d'être pris par les garçons de façon quasi exclusive, alors de nouveau les femmes vont être reléguées dans la situation d'infériorité des siècles passés. C'est pourquoi les parents qui s'inquiètent de voir leur fils passer trop de temps sur les jeux vidéo devraient plutôt se soucier d'y intéresser leur fille. » Comme le souligne Yvette Roudy, on a toujours tort d'avoir un train technologique de retard. Il est donc urgent de se poser la question, pourquoi les femmes s'intéressent-elles si peu à la micro-informatique? Les explications fournies à l'appui de cette désertion sont légion. On navigue entre les raisonnements les plus loufoques, les différences de capacité visio-spatiale entre les hommes et les femmes entraîneraient une moins bonne coordination main-œil chez ces dernières et donc une plus grande difficulté face aux ordinateurs. Les clichés les plus ravageurs sont donc légion. Les femmes sont moins douées pour la technique, elles ont moins l'esprit de compétition, elles sont moins joueuses, etc., etc. Et les explications de fond qui s'attachent au contexte culturel dans lequel évolue la micro-informatique pensée et conçue comme masculine et à la répartition des rôles selon les sexes dans notre société. Le questionnaire paru dans Tilt et sur le serveur du journal rassemble toutes les réflexions couramment entendues sur le sujet. Lorsque les femmes ne jouent pas, c'est d'abord parce que les jeux ne correspondent pas à leurs attentes ou parce qu'elles n'ont pas eu l'occasion. Bizarrement, 86% d'entre elles ne considèrent pas la micro-informatique comme un domaine culturellement masculin. À la question « Pourquoi, à votre avis, les femmes s'intéressent-elles moins à la micro-informatique que les hommes? Une réponse arrive en tête, le manque de temps. Les femmes ont un emploi du temps plus chargé que les hommes, ou encore, on peut entendre, qui fait le ménage après sa journée de travail pendant que monsieur copie ses disquettes? Bref, du grand n'importe quoi. Beaucoup évoquent le manque d'informations dans un domaine traditionnellement réservé aux hommes. Sur le jeu proprement dit, beaucoup regrettent l'absence d'héroïnes et de jeux féminins. Plus pragmatiques que les hommes, elles verraient moins d'attrait pour une occupation fondée sur des situations imaginaires qui, a priori, ne servent à rien et n'auraient pas besoin de s'affirmer comme la meilleure, la plus forte à travers un héros imaginaire. Là encore, du grand n'importe quoi. Quant aux discriminations culturelles subies par les femmes en micro-informatique, outre les remarques du type « elles sont écartées » ou « la chaise de l'ordinateur n'est jamais libre », les deux témoignages suivants sont éloquents. Ainsi, une commerçante de 25 ans nous dit « Quand je vais dans un magasin d'informatique et que je demande quelque chose, la plupart du temps, le vendeur interroge « C'est pour vous ?» avec un léger sourire. Alors, je ne pose pas de questions au vendeur, je lis et achète en fonction de ce que j'apprends dans les livres. Je pense également que la publicité y est pour quelque chose. Les hommes programment et les femmes font du traitement de texte. » Fin de citation. Et cette étudiante en sciences politiques de 19 ans nous dit « Il n'y a qu'à voir la tête excédée des vendeurs quand une femme demande des renseignements sur la carte 3XTEL compatible. » Quand on fait de la micro-informatique, on aime en parler, échanger des trucs, continue-t-elle. Les garçons parlent entre eux, il est possible de s'intégrer. Les filles font donc de l'informatique en douce. Fin de citation. Enfin, citons ces deux réflexions qui renvoient dos à dos culture et nature. Pour une des lectrices, donc de Tilt, le manque d'intérêt des femmes tient, je cite, à la différence fondamentale entre les deux sexes. Les filles sont plus enclines à la rêverie, aux activités moins rationnelles, au contact humain. La relation avec une machine me paraît totalement inutile et infructueuse. Fin de citation. Alors que pour une autre, c'est une question culturelle amenée à évoluer. Je cite, on peut donner des tas de raisons expliquant le fait qu'il y a peu de femmes mécaniciennes, pilotes de course ou soudeuses. Pour l'informatique comme pour le reste, cela viendra inévitablement. Fin de citation. En attendant, une chose est sûre, le marché cible les hommes à l'instar des jeux dans le domaine familial et des publicités dans le champ professionnel. L'une comme l'autre vole au ras des clichés sexistes. On retrouve toute la gamme des préjugés fossiles qui mettront du baume au cœur des nostalgiques de la misogynie pure jus, consternant ou drôle selon votre sensibilité. Quelle est la représentation des femmes dans les jeux informatiques? C'est simple, elle n'est pas. Rambo, Cobra, Rocky, Crash Garrett, Billy la banlieue, Indiana Jones, Bob Moran, Bill Palmer, Blueberry, peu importe le type de jeu, le protagoniste est toujours un homme. Les femmes, lorsqu'il y en a, sont reléguées au rôle passif de la princesse enfermée dans le donjon ou de la belle qui se donne au plus fort quand elle n'incarne pas les personnages négatifs de la vampire capricieuse, de l'espionne vénéneuse, voire de la sorcière. Les jeux sur ordinateur véhiculent les mêmes clichés que la bande dessinée des années 60. À une époque où l'on porte la plus grande attention à l'image de la femme et de l'homme qui est donnée aux enfants, que ce soit dans les manuels scolaires, les livres pour la jeunesse ou les jouets, les jeux informatiques en sont restés au vieux schéma sexiste. Et cet imaginaire est tellement ancré dans l'univers de la micro-informatique que le seul fait d'en parler vous fait passer pour une féministe acharnée. J'exagère à peine. Dans la plupart des jeux, la femme est capricieuse, dépensière, roublarde ou inexistante dans son rôle de pot de fleurs, repos du guerrier, voire de carotte qui vient récompenser la quête du héros. Dans Harry et Harry, Marthe Harry est de votre côté si vous vous conduisez en parfait goujat. Il est alors de bon ton de lui envoyer votre fumée au visage. Dans King of Chicago, Pinky Callaghan mène sa maîtresse Lola à la baguette pour éviter qu'elle ne le mène à la ruine. Dans les jeux d'aventure, cela tourne à l'obsession, la femme est toujours prisonnière. Est-ce un délire maniaque de la part des programmeurs qui fantasment sur la femme enchaînée ou un manque d'inspiration? Dans Dungeon Maker de Ubisoft, il y a bien des personnages féminins, mais pour elle, ce sont les points de beauté qui comptent. Méfiez-vous des femmes, mais on garde la notice de Is No Good chez Infogrames. Rares sont les jeux qui proposent une version féminine de leur scénario, comme le fait Alter Ego d'Activision, superbe aventure interactive qui guide le joueur à travers les choix fondamentaux de l'existence. Parmi la trentaine de strip poker existants, seul Artworks propose une version féminine. Et si une Samantha Fox digitalisée se déshabille sur bande magnétique, les filles ont encore échappé au charme mammaire d'un Arnold Schwarzenegger pixelisé. Maria Whittaker, hein, une des pin-up révélées par le Sun, s'affiche poitrine en avant sur la jaquette de Barbarian de Palace Software. Cette présentation, jugée trop accrocheuse, a d'ailleurs été refusée par la chaîne anglaise de distribution Bauhaus. À deux reprises en Grande-Bretagne et aux États-Unis, des associations de femmes se sont mobilisées pour dénoncer le sexisme de certains jeux. En mars 1983, l'association des femmes contre la pornographie proteste contre le logiciel Custer Revenge sur console Atari, où l'on voit le perdant héroïque de la bataille de Little Big Horn gagner une indienne en récompense de ses exploits. Plus récemment, une association anglaise a protesté contre une scène de viol dans Les Passagers du Vent. Les éditeurs sont les premiers à reconnaître la misogynie des jeux. Oui, les jeux sont sexistes, car l'informatique est un domaine masculin, comme l'automobile, remarque Frédéric Pinlet de Jokes. C'est vrai, certains scénaristes ou certaines publicités sont sexistes, mais il ne faut pas généraliser, temporise Emmanuel Vio d'Air Informatique. Pour d'autres, les femmes sont plus absentes que dénigrées, comme le pensent Christine Kemar de Ubisoft ou Albert Loridan de US Gold. Pour Francis Blow de Free Game Bloat, je cite, « Ce n'est pas les jeux qui sont sexistes, mais la clientèle qui l'est, et nous mettons donc sur le marché des jeux adaptés à cette clientèle. » Mon Dieu, c'est terrible, excusez-moi de ce petit commentaire. À l'appui de cet argument, il faut reconnaître que les quelques tentatives mises en œuvre pour toucher la clientèle féminine n'ont pas toujours été couronnées de succès. Amazon Woman de US Gold a été un flop commercial. Même constat pour la poupée Barbie d'Epix ou encore Serenade développée par Jokes, qui plaisait surtout aux filles. En revanche, Mimi la Fourmi, un des meilleurs jeux éducatifs du marché développé par une Québécoise, a eu un certain succès dans son domaine, par nature ouvert à un large public. Citons encore La femme qui ne supportait pas les ordinateurs, un roman interactif écrit par Shin Lanzmann et édité par Froggy Software. Jean-Louis Le Breton, directeur de la société, affirme d'ailleurs avoir une clientèle féminine à 40%. Mais Froggy Software occupe une place à part dans l'édition de jeux, avec un catalogue fait exclusivement de logiciels d'aventure et de vente qui reste marginal face aux milliers de programmes d'arcade vendus par ailleurs. Au-delà de l'aspect machiste des scénarios, on peut se demander si les types de jeux proposés, jeux de guerre, courses de voitures, invasions spatio-galactiques, ne sont pas plus masculins que féminins. Les femmes seraient plus naturellement portées sur les jeux d'aventure ou de découverte. Ainsi, bien souvent les femmes interrogées sur l'absence de joueuses informatiques parlent de la pauvreté de l'offre. Les jeux sont idiots et simplistes, il est donc normal que les femmes ne s'y intéressent pas, peut-on entendre. De même, les programmeuses ou scénaristes féminines travaillent plus souvent sur des jeux d'aventure. Ainsi, Anita Sinclair dirige la marque Magnetic Scroll, connue pour ses somptueuses aventures The Pawn, Guild of Thieves et Jinxter. Béatrice Langlois a été primée pour Mortville Manor, Clotilde Marion a écrit le scénario de « Même les pommes de terre ont des yeux ». Mais tout n'est pas si simple, l'expérience prouve que les femmes qui jouent aiment aussi les jeux d'action. Le questionnaire paru dans Tilt montre, en effet, que si les jeux d'aventure arrivent en tête des préférences des lectrices avec 55%, ils sont immédiatement suivis par les jeux d'action choisis par 47% d'entre elles. De même, si 56% sont plutôt d'accord avec l'affirmation suivante, les jeux micro-informatiques répondent davantage aux attentes masculines, 43% ne le sont pas du tout. Stéphanie, 12 ans, une passionnée, considère que les jeux sont faits pour tout le monde, même les jeux de combat sont amusants. Toutes mes amies aiment les jeux, je ne sais vraiment pas pourquoi, il y a plus de garçons que de filles, il n'y a pas de raison. Dont acte. La balle est dans le camp des éditeurs et scénaristes pour créer un nouveau type d'héroïne positive. De même que les jeux sont sexistes, les publicités renvoie à une image de la femme qui n'est guère plus reluisante. La publicité est un excellent miroir de l'utilisateur type puisqu'elle ne met en scène, de façon quasi exclusive, que des hommes. Lorsque les femmes apparaissent, c'est en tant que secrétaire, spectatrice ou simple faire-valoir et faire vendre. La campagne d'Yvette Roudy contre les discriminations sexistes, notamment dans la publicité qui aboutit à la loi du 25 juillet 1985, n'a apparemment pas laissé beaucoup de traces. Comme pour les tracteurs, le corps féminin fait merveille dans la vente de circuits imprimés, à l'instar de cette délicieuse publicité. Découvrez le XIS Baby, le PC XT portable, où l'on voit le mannequin découvrir son corps partiellement masqué par le portable, élégamment placé entre ses jambes. Une pure merveille sexiste, tant par sa qualité visuelle que par les clichés qu'elle véhicule. Tout aussi innocente, une des annonces passées par Victor dans la presse exhibe certes une femme appuyée sur un ordinateur, mais cette petite photo est surmontée d'un grand cliché montrant une sensuelle bouche féminine qui nous dit « Oui, j'aime l'argent, et à puissance égale, j'adore l'énorme écart des prix entre Victor et une autre marque. Sexistes les publicités ? Allons donc ! Hewlett-Packard, dans sa campagne bureautique intitulée « Le plus court chemin d'un cerveau à l'autre », place des acteurs sur la ligne symbolisant le chiffre d'affaires croissant d'une société. La femme est en bas. Gaëtan Sauveboeuf de l'agence Grey se défend de tout racisme lié au sexe en arguant que la couche symbolise les échanges d'informations et que la femme est à la source de ce dialogue. Bien sûr, la publicité n'est que le reflet des mentalités et elle se défend d'avoir à les changer. De même, elle vise les marchés existants et non pas les marchés potentiels. Il n'empêche, l'agence Alice en charge du budget Victor reconnaît que ce sont uniquement des hommes qui sont représentés parce que les cadres informatiques sont des hommes. Il n'est pas judicieux pour eux d'aller plus loin. Même réaction de la part d'Isabelle Neuhaus qui s'occupe de la communication pour Amstrad. La culture informatique est masculinisée. La publicité exploite les leviers existants. Elle ne fait qu'accélérer les phénomènes mais ne les crée pas. La femme n'a pas le crédit initial, alors pourquoi les annonceurs affaibliraient-ils leur image ? Ce n'est pas notre rôle de faire avancer les choses. Hein ? Ça c'est bon à savoir aussi. Heureusement, il y a Thomson qui apporte une bouffée d'air avec sa dernière campagne pour le TO8D, conçu pour tous, les mordus. Face à l'ordinateur, l'agence Polaris aligne une brochette de personnages de tout horizon, petits et grands, jeunes et moins jeunes, filles et garçons, matheux, sportifs, danseuses ou graphistes, tous sont des utilisateurs potentiels du TO8D, une publicité colorée, gaie et ouverte qui va à l'encontre de tous les stéréotypes et mériterait un prix à l'instar de la campagne United Colors de Benetton. Dans l'ensemble, les constructeurs de machines ou éditeurs de logiciels ne s'adressent pas aux femmes. La micro-informatique reste un monde d'hommes. Il est alors difficile d'échapper au paradoxe de l'œuf et de la poule. Les femmes ne s'intéressent pas à la micro-informatique parce que celle-ci les ignore, ou le marché est-il avant tout masculin parce que les femmes ne se sentent pas attirées naturellement par la micro-informatique. Cette interrogation nous renvoie d'une part à l'étiquette collée à la micro-informatique qui en fait dès l'origine un domaine masculin et d'autre part au penchant naturel des hommes et des femmes. La micro est-elle condamnée à rester en domaine masculin à tout jamais ? Certainement pas. Au début de la micro-informatique grand public, fin 1981, tout le monde pariait sur l'utilisation familiale des micros. L'informatique allait envahir les foyers, devenir indispensable à tous. 6 ans plus tard, on parle encore de micro-informatique familiale quand il serait plus juste de parler d'utilisation personnelle et masculine. L'étude marketing réalisée lors du lancement de l'Alice début 1982 tablait aussi sur un public très large avec le but avoué d'ouvrir un nouveau marché, d'offrir une clé d'accès aux gens qui avaient peur de l'informatique. Foin de technique, il fallait prouver la simplicité d'utilisation. L'emballage du produit était également révélateur. Tous les ordinateurs étaient gris, donc celui-ci sera rouge. Ils portent tous des noms bâtards. Il sera baptisé Alice. Dessiné par Moebius, Alice est humaine, chaleureuse et symbolise l'entrée dans un autre monde, le pays des merveilles. La campagne de publicité se détourne de la presse informatique pour toucher le grand public à travers elle, Télé 7 jours ou Paris Match. Résultat des courses, 10 000 machines vendues au Noël 1983 et 3 000 de plus au cours de l'année suivante. Autant dire très peu. Certes, la machine était tout sauf performante. Mais pour la première fois, un constructeur rompait avec la clientèle traditionnelle des hobbyistes passionnés. Peut-être était-ce encore trop tôt. Depuis, l'informatique s'est simplifiée, l'ergonomie à la Macintosh démocratisée avec l'arrivée de l'Atari ST, et surtout les capacités et l'utilité des machines se sont démultipliées. Micro-éditions, outils graphiques performants, programmes musicaux spectaculaires, jeux de plus en plus attrayants, l'informatique quitte peu à peu le giron des passionnés et bidouilleurs pour toucher un large public. Scénaristes, artistes, musiciens apportent leur talent à la création de jeux. L'informatique devient un produit culturel plus riche et plus ouvert. Alors, l'informatique asexuée, c'est pour quand ? Demain, à n'en pas douter. Ce dossier dont je vous ai retranscrit de là, on va dire 70%, car il est extrêmement long. Je vous en ai pris les passages qui me semblaient les plus marquants. Et signé Nathalie Meisterman, cela a été écrit dans un tilt datant de 1988, il y a donc 30 ans. C'est là qu'on s'aperçoit que des progrès ont été faits, mais on est loin, très loin, de tout ce qu'il aurait fallu faire. Et je voulais vraiment vous parler de ça ce matin, sans autre news, sans autre forme d'introduction, juste vous livrer ce texte brut qui est un témoignage de l'époque, une photographie de la condition féminine dans le milieu de la micro-informatique et par extension dans la société, hein, à travers les publicités de l'époque. En 88, voyez-vous, j'avais 12 ans. Je ne me rappelais plus que l'univers de la micro-informatique était si sexiste. Vraiment, avec mes yeux d'enfant, en tout cas de pré-adolescent, je ne l'avais pas tant remarqué que cela. Et replonger dans ce texte, je peux vous dire que ça fait un choc quand même. Voilà, j'aimerais qu'on continue à en débattre. N'hésitez pas sur le Twitter de l'émission, sur le Discord, sur le Facebook, vous le savez. Je tenais encore à vous remercier 1000 fois, chers tipeurs, pour votre soutien indéfectible, vraiment, qui m'est très cher. Allez, bye bye. Très chaud aujourd'hui, et justement un sujet, un des sujets chauds de la semaine qui vient de s'écouler, et on en a parlé dans l'émission quotidienne, et ben c'est Amy Henning, hein, qui lance son studio indé. Amy Henning, hein, maman notamment d'Uncharted, mais pas que, on va y revenir, qui avait été embauchée par Electronic Arts en 2014 en tant que directrice, hein, sur le jeu Star Wars de Visceral Games. Alors vous savez que le studio a fermé, le jeu était annulé, c'était l'un des éléments qui a lancé la polémique sur le jeu solo, qui ne serait pas en odeur de sainteté chez les gros studios. Et en cherchant le sujet que j'allais aborder avec vous ce matin, je suis retombé, alors je l'ai sous les yeux, hein, j'ai vraiment le magazine, d'ailleurs j'ai mis quelques photos sur les réseaux sociaux, hein, vous les avez sûrement vues, d'un joypad donc, qui date de janvier 2010, hein, le numéro 203 pour être précis, car la vie est faite de précision, vous le savez. Et dans la rubrique La Longue Interview, eh ben, c'était Amy Henning qui s'y collait. Alors il faut savoir que janvier 2010, on est quelques mois après la sortie d'Uncharted 2, qui était sortie au mois de novembre de l'année précédente. Uncharted 2 qui a été vraiment un cap, non seulement pour le jeu d'action-aventure, hein, qu'il représente, un cap au niveau du mélange des codes cinématographiques et des codes vidéoludiques, et c'est l'un des jeux les plus influents de sa génération, voire même de la génération d'après, puisque même dans le récent God of War, on retrouve plein d'astuces de réalisation, de gimmicks qui sont nés avec Uncharted 2 et Uncharted 3 aussi par la suite, etc. Bref, donc j'avais envie de vous livrer le contenu de cette interview. Alors c'est jamais un exercice facile de rapporter les propos d'une interview, je vais essayer de faire ça du mieux que je peux, mais je trouvais que vraiment, cela tombait vraiment très bien que je retombe sur cette interview. On est pile poil dans l'actu, et ça permettra peut-être à certains d'entre vous de se remémorer des choses sur Amy Henning, voire d'en apprendre, vu qu'on en a pas mal parlé ces derniers jours. Donc, la longue interview Amy Henning commence ainsi. Joypad nous dit que derrière les tourments gothiques de la série culte Legacy of Kain et les sourires du héros d'Uncharted, on trouve la même créatrice, discrète et surdouée. Elle nous dévoile son parcours personnel et exigeant. Alors, la première question que pose Joypad, hein, à Amy Henning est la suivante. Quel fut votre premier contact avec les jeux vidéo ? Et donc l'intéressé de répondre. Le premier auquel j'ai joué était sur une machine Teletype. Il n'y avait pas d'écran, le texte était imprimé sur un rouleau de papier. J'avais 9 ans, alors cela doit se situer autour de 1973. Je n'avais jamais vu une chose pareille et ce souvenir m'a marqué. Plus tard, en 1976, je crois, je ne pensais qu'à aller dans une salle d'arcade et essayer les nouveaux jeux vidéo. Le choix n'était pas très grand à l'époque et je me rappelle surtout de Pong, Night Driver et Sea Wolf. C'étaient mes préférés. Et puis l'Atari 2600 est arrivé et ça m'a vraiment obsédé au point que je me rendais très souvent avec un ami chez l'épicier du coin qui en avait un exemplaire de démonstration. Je squattais et je jouais pendant des heures. Cette année-là, mes parents m'ont offert une Atari pour Noël et c'est resté pour moi le plus beau cadeau qu'on m'ait jamais fait. Il a sans doute déterminé les orientations de ma vie professionnelle à venir. Je me souviens avoir été impressionné par le jeu Adventure, sorti en 1979, qui a particulièrement stimulé mon imagination. Joypad lui pose cette deuxième question. Quel a été votre parcours avant d'intégrer l'industrie du jeu vidéo ? Qu'est-ce qui vous a décidé à développer des jeux ? Et donc Amy Henning répond. J'ai étudié à l'université de Berkeley où j'ai reçu un diplôme en littérature anglaise, puis j'ai commencé à suivre des études en section film, théorie et production à la San Francisco State University. Pour être honnête, j'avais à l'époque cessé de jouer aux jeux vidéo depuis pas mal d'années, et je ne les avais jamais envisagés comme une voie professionnelle potentielle. C'est totalement par hasard qu'en 1989, je rencontre un vieux copain qui me propose un job, s'occuper du design et de l'animation d'un jeu sur Atari 7800. Comme je cherchais désespérément de quoi payer mes études de cinéma, j'ai accepté. Il s'est avéré que nous étions deux, un programmeur et moi. Et j'ai donc, pour ainsi dire, tout fait. Design, création graphique, animation. Malheureusement, le jeu n'est jamais sorti. Il était fini. Mais Atari a décidé de ne pas l'éditer car à l'époque, l'Atari 7800 était vraiment fin de vie. La NES venait de changer la donne et l'Atari 7800 n'avait pas de quoi tenir la distance. Quoi qu'il en soit, pendant l'année où j'ai bossé sur ce jeu, j'ai au moins compris une chose, que j'étais faite pour ça. J'avais trouvé ma voie. Même à l'époque, je me disais que cette industrie me permettrait d'exprimer toute ma passion pour l'écriture, la littérature et le cinéma, le tout d'une manière inédite. Joypad donc rebondit avec cette question. Vous avez débuté votre carrière chez Electronic Arts. Ironie du sort, hein, quand on y pense, bref. Vous apparaissez notamment sur Michael Jordan, Chaos in the Windy City, pour le game design et l'animation. Dans quelles circonstances avez-vous intégré Electronic Arts ? Qui faisiez-vous ? Alors Amy Henning répond, ayant décidé de travailler dans l'industrie du jeu vidéo, j'ai réalisé un portfolio de mon travail pour Atari. J'ai quitté l'école de cinéma et dégoté un travail comme artiste débutant, donc chez EA. C'était en 1991. J'ai passé ma première année à faire de l'animation de personnages pour un jeu PC qui n'est jamais sorti. En l'occurrence, c'était Bard's Tale 4. Et j'ai ensuite réalisé quelques travaux artistiques sur Desert Strike pour Sega Genesis. Donc le nom américain de la Mega Drive, je le précise. Puis je me suis progressivement orienté vers le design pour finalement être designer en chef sur le jeu de Michael Jordan. Le concept était bizarre, mais nous l'avons pris comme un challenge et nous avons réussi à livrer un titre plutôt correct pour la Super Nintendo. Après quoi notre équipe a été chargée de proposer des concepts de jeux d'arcade, domaine où EA souhaitait s'implanter davantage. Nous étions encore aux prémices d'un jeu de tir en multijoueur situé en Louisiane avec des zombies à dégommer quand EA a estimé que le marché de l'arcade ne lui convenait pas et l'équipe a été dissoute. C'est dommage parce que notre projet était assez en avance sur son temps, 2 ans avant Resident Evil. Joypad pose cette autre question. Comment êtes-vous passé d'EA à Crystal Dynamics ? Quelle différence notez-vous entre les deux sociétés ? Amy Henning répond. Quand la division arcade d'EA a été dissoute, j'ai décidé de rejoindre Crystal Dynamics, c'était en 1995. J'avais déjà plusieurs amis qui étaient passés d'EA à Crystal Dynamics. J'ai passé des entretiens pour être designer en chef sur la suite en 3D de Jex et pour le rôle de design manager. C'est ce dernier poste que j'ai obtenu. Ma fonction était de superviser le développement de tous les jeux Crystal Dynamics sous l'angle du design. Ce n'était pas un boulot de chef ou de réalisateur, plutôt de contrôleur de la bonne marche des opérations. Plus concrètement, j'ai passé la première année chez Crystal à collaborer avec le studio Silicon Knights pour Blue Domain Legacy of Kain. Le titre était en préparation depuis longtemps et l'histoire et les cinématiques étaient déjà très avancées. Mais au niveau du game design, il fallait retravailler beaucoup de choses. Nous avons travaillé main dans la main pour remettre le jeu sur de bons rails et aboutir au résultat que vous connaissez. Crystal Dynamics était une société très différente d'EA, et j'aimais surtout sa petite taille. Pendant mes 4 ans chez EA, la compagnie avait beaucoup grossi, et j'ai d'autant plus apprécié le côté familial de Crystal, sa culture plus intime. Là aussi, je fais une parenthèse, mais je trouve le parallèle avec ce qui s'est passé avec l'annonce de ces derniers jours assez intéressante. Autre question de Joypad. En observant votre travail, on peut voir l'importance de l'écriture, tout comme une passion pour le cinéma et les grandes figures populaires. Dracula pour Blue Domain, Indiana Jones pour Uncharted. Quelles sont les créations qui vous ont le plus marqué, celles qui continuent de vous influencer ? Madame Henning répond, oui, je suppose que j'ai toujours été influencé par les autres médias dans mon approche du game design, en particulier la littérature et le cinéma. Mes premiers choix universitaires étaient tournés vers l'écriture et la réalisation. Il y a donc une certaine logique dans tout ça. J'ai surtout été influencé par les livres, les comics et les films de mon enfance. L'année 1977, surtout, a été déterminante puisque j'ai découvert coup sur coup l'Atari 2600, Donjons et Dragons et Star Wars. Tous ces éléments se sont télescopés dans mon imaginaire de gamine de 12 ans et ont stimulé fatalement ma créativité. Il semblait que d'un seul coup, toutes les règles avaient changé, que tout devenait possible. Autre question de Joypad. Le premier Blue Domain, Legacy of Kain, fut développé par Silicon Knights puis Crystal Dynamics. Quel est votre regard sur ce jeu assez différent de ce qu'allait devenir la série ? Comme je le disais, donc répond Amy Henning, Crystal Dynamics et Silicon Knights ont travaillé en étroite collaboration pour Blue Domain. C'était vraiment un projet passion pour nous tous. À ce moment-là, nous n'avions aucune idée de ce que la série allait donner par la suite. Nous voulions seulement livrer un jeu d'aventure adulte, mixant Zelda et les vampires pour la PlayStation. Il est clair que Soul River était un jeu très différent, réalisé en full 3D avec un nouveau personnage principal, mais il était important pour nous de ne pas nous couper de la mythologie posée dans Blue Domain et de garder Kain comme héros à part entière de la saga. Joypad donc pose ensuite cette question, vous êtes crédité en tant que game director pour la première fois sur Soul River. Était-ce le projet rêvé pour prendre ses responsabilités ? Amy Henning répond, oui, quand j'ai rejoint Crystal Dynamics, je leur ai expliqué que je leur souhaitais m'occuper du game design pendant 1 an. Après quoi, je voulais avoir une chance de réaliser un jeu. Heureusement, Tout s'est passé comme j'espérais. Après avoir fini Blue Domain en 1996, j'ai basculé sur le poste de réalisatrice et j'ai commencé aussitôt à élaborer le concept général de ce qui allait devenir Soul River. Pour une première réalisation, c'était une réussite, mais je crois que nous avons été trop ambitieux. Non seulement nous avons conçu notre propre moteur 3D, mais nous nous sommes fixés d'autres challenges, comme supprimer les temps de chargement et accomplir cet effet de transition en morphing entre le monde spectral et le monde réel. C'était dingue de hisser la barre aussi haut dès le départ. Et Joypad pose cette question-là, du coup. Que représentent pour vous les figures de Raziel et Kane ? Amy Henning répond ceci. Eh bien, d'un point de vue narratif, il symbolise la lutte pour conquérir son libre arbitre dans un monde régi par le destin. Sur un plan plus personnel, j'ai une grande affection pour ces deux personnages. Ils ont occupé 8 ans de ma vie. Ils représentent à mes yeux mes années de formation comme réalisatrice de jeux vidéo et conteuse d'histoire. Ils auront donc toujours une place à part dans mon cœur. Autre question de ce cher Joypad. Vous êtes reconnu comme étant l'auteur de Soul River, la gardienne du temple de la mythologie de Nosgoth. Une sorte de Tolkien ou de J.K. Rowling du jeu vidéo. C'est une comparaison qui vous convient, vous flatte ? Alors Amy Henning répond, j'ai beaucoup de mal à me comparer à Tolkien ou J.K. Rowling, je suis très flatté de votre comparaison, mais nous ne jouons pas dans la même division. Toutefois, je suis très fier du boulot accompli sur la série, Legacy of Kain, et cela compte beaucoup pour moi de voir à quel point les fans ont aimé ces jeux, tant pour leur gameplay que pour leur narration. Joypad donc rebondit avec cette autre question, est-ce que Legacy of Kain Défiance est la fin que vous vouliez pour la série ? Défiance, dit Amy Henning, représente ma fin de l'histoire, mais nous avons proposé une fin assez ouverte pour qu'une nouvelle équipe puisse éventuellement refaire revivre la franchise à sa manière. Je savais déjà, depuis plusieurs mois, avant de finir Défiance, que j'allais rejoindre Naughty Dog. Il était d'autant plus crucial pour moi de conclure la saga de Raziel au minimum, et de boucler la boucle des thèmes et des concepts soulevés par la série. Et donc voilà la question fatidique, comment êtes-vous arrivé chez Naughty Dog ? Madame Henning répond, Evan Wells m'a contacté au printemps 2003 et m'a proposé de rejoindre l'équipe. J'avais déjà travaillé avec Evan et d'autres membres de Naughty Dog chez Crystal Dynamics, j'ai donc été flatté qu'il ait pensé à moi quand un poste de réalisateur s'est libéré. J'ai passé l'entretien et voilà. Mais je devais finir Défiance donc je n'ai rejoint Naughty Dog qu'en novembre 2003. Joypad enquille avec cette question. Sur Jack 3, vous vous êtes concentré sur la réalisation en laissant l'écriture à Dan Harray. Pourquoi ? N'était-ce pas frustrant ? Amy Henning répond, non, ce n'était pas frustrant du tout. Nous n'avions qu'un an pour faire Jack 3, j'étais donc entièrement monopolisé par le game design, les mécaniques de jeu, les graphismes, etc. De plus, Dan a toujours été le gardien du temple de Jack and Dexter. Il a écrit les histoires, travaille avec les acteurs et connaît tous les tenants et aboutissants de la série. Il était le mieux placé au final pour maintenir la cohésion de l'ensemble. C'est son bébé. Et je dois reconnaître que j'étais assez soulagé de laisser de côté l'aspect narratif après 8 ans sur Legacy of Kain. Cette année consacrée au seul game design a servi de transition idéale pour moi. Et donc Joypad lui dit « Game design, script, production, vous aimez toucher à tout. Pour avoir une meilleure compréhension du jeu dans sa conception, par goût personnel ?» Et donc Amy Henning répond « Je pense que l'essence du boulot d'un directeur créatif est de garder en tête le projet d'ensemble, de préserver sa vision de la forêt tandis que tous les autres réalisent les arbres un par un. Les meilleurs directeurs sont capables d'envisager les causes et les effets de chaque décision relative au game design. Il est donc naturel d'être impliqué dans plusieurs disciplines à la fois. Il est certain qu'il existe des réalisateurs qui ne s'occupent pas du tout de l'écriture, mais vu mon background littéraire et cinématographique, il est normal que je me mêle de la dimension scénaristique des projets. » Et donc Joypad lui demande, sur Uncharted 1 et 2, vous êtes en charge de l'histoire, écriture des scènes, création des personnages, etc. Aviez-vous contribué à d'autres aspects du jeu, comme son gameplay ? J'aime travailler, nous dit Amy Henning, sur tous les aspects du game design, depuis les mécaniques jusqu'au graphisme, en passant par la direction artistique, l'écriture et la collaboration avec les acteurs dans le studio d'enregistrement. Toutefois, cela représente trop de travail pour une même personne. C'est pourquoi je travaille avec d'autres réalisateurs et que je délègue autant que possible. Mais oui, je m'implique dans tous les domaines si j'ai le temps. Sur mes jeux précédents, je me suis arrangé pour gérer à la fois l'histoire et le gameplay, mais sur Uncharted 2, l'histoire était si ambitieuse qu'elle a monopolisé presque tout mon temps simplement pour rédiger le script et diriger les comédiens. Je n'ai pas pu m'impliquer dans le gameplay autant que je l'aurais souhaité, mais l'équipe chargée du design chez Naughty Dog est fantastique, je savais que le jeu était entre de bonnes mains. Autre question, dans quelle mesure présidez-vous aux orientations de la série Uncharted ? Amy Henning répond ceci, en tant que directrice de création, il est de mon devoir de m'assurer que tout le monde a bien compris la nature du projet et l'esprit dans lequel nous réalisons le jeu. Le réalisateur doit poser les principes qui vont servir de guide aux autres membres de l'équipe. Pour prendre l'exemple des personnages et du ton général des jeux, il était primordial de conserver ce charme et cet humour caractéristique de la série et de ne pas oublier de rester fidèle au code de la série B d'aventure. Si le design s'éloigne trop de ses idées fil rouge, c'est mon boulot de corriger le tir. Avant-dernière question, pensez-vous que l'industrie du jeu vidéo sait raconter de bonnes histoires? Quels sont les avantages et les inconvénients de la narration dans un jeu vidéo? Donc Amy Henning répond, je pense qu'il y a d'extraordinaires raconteurs d'histoires dans l'industrie du jeu vidéo. Malheureusement, la règle veut qu'en général le scénario soit conçu après le gameplay et que l'écriture soit le plus souvent médiocre. Mais les choses commencent à changer. Il y a de grands artistes capables de combiner des formes de narration conventionnelles et non conventionnelles dans leur jeu. Il reste beaucoup de chemin à parcourir, mais je crois que nous sommes à un tournant en termes de sophistication de la narration. Il faut toutefois préciser que tous les jeux n'ont pas besoin d'histoire, bien sûr, ni de cinématiques pour les raconter. L'avantage d'un jeu scénarisé est qu'il procure au joueur toute une batterie d'éléments permettant son identification et lui procurant la motivation de progresser dans l'aventure. Mais cela peut se faire de manière élégante et oblique, comme dans Flower ou Ico, ou bien via des cinématiques comme dans Uncharted. Il n'existe pas une bonne façon de raconter les histoires. Dernière question. Que pose Joypad ? Peu de femmes dans l'industrie du jeu vidéo ont votre créativité et votre degré de responsabilité. Est-ce un problème selon vous ? Donc Amy Henning répond, il y a beaucoup plus de femmes qu'on ne le pense qui travaillent dans l'industrie du jeu. Bien sûr, cela reste dominé par les hommes, mais je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui bossent dans leur coin sans chercher à faire parler d'elles, ce qui les rend de fait invisibles aux yeux des médias. C'est la même chose pour les joueuses, il y a énormément de filles qui jouent aux jeux vidéo, mais elles ne se mettent pas autant en avant que les hommes. Les femmes restent minoritaires dans l'industrie, c'est certain, mais les choses changent. On les remarque davantage, par exemple, à des manifestations comme les Game Developer Conference. Je ne me suis jamais senti discriminé dans mon métier, mais je suis certaine que la diversité a du bon. Pendant trop d'années, l'industrie a été dirigée par un petit groupe de gens aux personnalités écrasantes. Plus il y aura de variété parmi les acteurs du média, plus les jeux gagneront en originalité et en qualité. Voilà ce matin ce dont je voulais vous parler, ces propos d'Amy Henning, toujours très éclairants. Alors j'ai posté quelques photos sur les réseaux sociaux, comme je vous le disais, et là sur la news du Tipeee, où on voit Amy Henning à 4 ans déguisé en Indiana Jones, ou quasiment en Indiana Jones, hein. Et c'est assez rigolo de savoir qu'ensuite, elle a été la maman, en tout cas du point de vue scénario, univers, lore, hein, si je puis dire, d'Uncharted. C'est ainsi que s'achève cette dernière grosse compile, ce dernier best-of de l'été. Donc comme je le disais en début d'émission, on se retrouve donc le 2 septembre 2019 sur tous les flux habituels. N'hésitez pas à suivre ça sur le compte Twitter de l'émission, @revuedepresse.jv2collé. Il y a la page Facebook, nous avons un super Discord. De toute façon, tous les liens sont dans la description de cette édition également. Vous pouvez commencer à vous abonner. Si vous ne connaissez pas encore l'émission, je suis disponible partout, iTunes, Spotify, Deezer, je suis sur la plupart des applis de podcast également. Je suis partout, vous ne pourrez pas y échapper finalement. Bref, le temps pour moi de vous dire donc à très très vite, le 2 septembre, portez-vous bien et vive le jeu vidéo. Allez, bye bye.